Évangile et liberté.
L'émission mensuelle du protestantisme libéral. Évangile et liberté, le mensuel du protestantisme libéral. Évangile et liberté, ou encore penser, critiquer et croire en toute liberté. Deux numéros d'Évangile et liberté seront envoyés gratuitement à tous ceux qui en feront la demande au numéro de téléphone suivant 09 53 43 45 71. Pour cette nouvelle émission, je m'entretiens avec Michel Fréchet, pasteur et avant d'être responsable entre 1984 et 1992 du service des relations œcuméniques pour l'Église réformée, appelée depuis Église protestante unie de France. Bonjour Michel Fréchet.
Bonjour.
Merci d'être dans les studios de FM+.
Merci.
Alors, vous publiez, Michel, aux éditions Olivier Temps, votre histoire, une histoire vécue de l'œcuménisme, pas seulement votre histoire, mais en tout cas votre perception de l'œcuménisme, quand les églises se parlent. Une histoire qui est merveilleusement encadrée par une préface du président de la Fédération protestante de France, François Claveroli, et conclue par une postface par l'archevêque de Tours, Vincent Jordi, dont le père est protestant et sa mère catholique. Voilà, il n'y a pas de hasard. Alors, vous étiez en charge, je l'ai dit, de l'œcuménisme entre 1984 et 1992. Mais aviez-vous, Michel Fréchet, avant cette mission, déjà une appétence pour l'œcuménisme?
Au fond, depuis toujours, depuis mon enfance, puisque, vous le savez, je suis né dans l'Aveyron, dans un village qui était ultra-catholique. Nous étions pratiquement la seule famille protestante, mais chaque année, nous recevions, ma mère recevait, mon père était au travail, mais ma mère recevait la visite très courtoise du curé du village. Mais c'est vrai que nous étions quand même une famille un peu à part dans le village, parce que les protestants étaient encore regardés avec des yeux ronds, avec une espèce d'imaginerie qui datait un peu du passé. Mais petit à petit, on a fait notre trou dans ce village, et c'est vrai que depuis toujours, j'ai eu une appétence finalement pour la relation avec les catholiques. Mmh. Évidemment, le grand tournant, ça a été en 1962. Mais avant, j'étais toujours intéressé, même au cours de mes études et au cours de, en particulier étudiante ici à Montpellier, des relations avec les jeunes de mon âge sur ces questions-là. Mais ça a été quand même le déclencheur, ça a été l'annonce par Jean XXIII du prochain concile, c'est-à-dire le concile Vatican II, qui était absolument inattendu.
On va reparler des questions centrales que vous restituez très bien dans ce livre. Je voulais simplement peut-être avant tout dire aux auditeurs et j'espère futurs lecteurs que vous avez divisé votre livre en deux parties. La première que vous avez intitulée « Les dialogues œcuméniques pluriels » et la seconde « Jalons ». Donc la première étant finalement un aperçu historique, une grande vision de l'œcuménisme et ensuite vos textes. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu cette organisation.
Cette organisation vient de ce que, bon, ayant été donc en responsabilité dans les années 84 à 92, comme on l'avait dit, mais déjà antérieurement, j'ai participé à une multitude de dialogues, d'abord local, ici dans ma paroisse, mais aussi régional, où j'étais responsable, délégué par le synode régional, puis au niveau national, puis au niveau européen, et puis au niveau mondial, dans certaines assemblées, dont pour moi, alors, il y a eu deux assemblées qui ont beaucoup compté. Alors, au niveau européen, c'est Bâle, la première rencontre œcuménique de Bâle en 1989. Et l'autre rencontre, c'était à Canberra, donc en 1991.
Donc, ce parcours-là, vous en êtes très généreux dans cette première partie. Et ensuite, vous, dans ce que vous appelez les jalons, vous le dites alors beaucoup plus. Vous donnez vos textes.
C'est ça. Oui, dans la première partie, c'est la participation à des dialogues officiels, en particulier au niveau français. Il y a le comité mixte catholique protestant, avec les orthodoxes, etc. Et il y a aussi la création du conseil d'église chrétienne, qui a été un moment aussi important. Ça, c'était en 1987. Bon, là, c'était des lieux vraiment de dialogue très fort et qui demeurent comme tels, d'ailleurs, aujourd'hui encore. Il y a le groupe des Dombes, auquel j'ai participé dans plus de 20 ans.
On aura peut-être l'occasion d'y revenir.
Voilà.
C'est à tout à l'heure.
Et dans la seconde partie, alors, ce sont effectivement des réflexions qui accompagnent, disons, la première partie, peut-être qui éclaire certains sujets et qui, dans lesquels je donne mon propre avis, si j'ose dire, et mon regard, disons, mon regard.
Votre regard, et puis c'est aussi une partie dans laquelle vous rendez hommage à des personnalités comme France Quéré, j'étais heureuse que vous la citiez, avec des témoignages de personnes qui l'ont connue, et tout son travail aussi qu'elle avait produit en tant qu'éthicienne, en tant que théologienne. Oui. Donc c'est aussi une mise en mémoire aussi de personnes qui ont jalonné avec vous ces années-là.
Tout à fait. Tout à fait, c'est une personne merveilleuse et évidemment son départ, son décès précoce nous a tous vraiment beaucoup meurtris, disons.
Alors, tout de suite, vous aviez envie de parler de ces deux, trois aspects qui peuvent, peut-être trois obstacles majeurs à l'œcuménisme, je les ai appelés ainsi, peut-être vous aurez peut-être une autre expression, trois sujets qui empêcheraient cette unité visible des chrétiens et sur lesquels on va un peu s'appuyer un peu pendant cette émission. Alors, le premier, c'est le rapport entre la doctrine du salut, dans des mots savants, vous appelez ça la sotériologie, et le rôle de l'Église dans cette transmission du salut, l'ecclésiologie donc. Alors, comment ça se fait que là, il y a un hiatus, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien?
Alors, ça vient de ce que, si vous voulez, au cours des dernières décennies, disons, depuis, au fond, le Concile Vatican, les dialogues œcuméniques ont nettement progressé, puisque si on fait un regard en arrière de 50 ans, 60 ans, il y avait un tas d'obstacles qu'on pensait infranchissables. Mais les dialogues ont permis de franchir une quantité de ces obstacles. Et puis, petit à petit, on voyait bien qu'il y avait un obstacle de plus en plus, et les théologiens appellent ça, d'une manière un peu triviale, l'os, c'est-à-dire le point dur. On a tourné autour. Et au fond, c'est sur la question, effectivement, du rapport entre la question du salut, qui était le grand thème au moment de la réforme, la justification par la foi, l'évangile reçu par la grâce imméritée de Dieu. Bon, alors, c'est vrai que là, c'était un point fort du dialogue entre les catholiques et les protestants depuis la réforme. Mais le travail accompli a permis de trouver un certain consensus sur la justification. Je dis un certain consensus, parce que, nous allons le voir, il n'y a pas une espèce d'identité quand même de vue entre les églises de la Réforme et l'église catholique romaine, pour ne parler que de ces deux entités ecclésiales. Du côté des églises de la Réforme, ce qui est important, c'est le salut, donc, par la foi, et qui est premier au fond. Ça commande tout le reste. Hein. Autrement dit, ce que j'appelle la sotériologie, la doctrine du salut, est première. Et vient en second, donc, la doctrine de l'Église. La preuve, par exemple, Jean Calvin écrit l'Institution chrétienne en quatre volumes. Le premier, c'est sur Dieu le Père, le second, Dieu le Fils, le troisième, Dieu le Saint-Esprit. Et le quatrième, c'est l'Église. C'est le plus gros. Donc, ce qui montre bien que l'Église, la question de l'Église est quand même importante chez Calvin, puisque c'est le plus important. Mais, ça vient en quatrième. Autrement dit, l'ecclésiologie, pour reprendre ce terme, la doctrine de l'Église, est une doctrine importante, mais seconde. Non pas secondaire, mais seconde. Voilà.
Ce qui n'est pas le point de vue de l'Église
catholique. Et de l'Église catholique, donc, alors, la doctrine du salut ne peut être comprise que, disons, c'est au même niveau que la doctrine du salut. Enfin, autrement dit, c'est que par l'Église qu'on peut accéder au salut.
Et cet os, c'est toujours aujourd'hui présent.
Et je crois qu'il est toujours présent, oui. Oui, il est toujours présent. Et ce qu'on a... Alors donc, nos frères catholiques aujourd'hui, dans le dialogue, ils ont signé un texte important, la justification par la foi, justement, en 1989, entre l'Église luthérienne et l'Église catholique. Et c'est, les autres églises de la Réforme ont adhéré à ce texte-là, après coup. Donc ça prouve qu'il y a, quand même un accord substantiel, quand même, sur la justification. Mais il y a un dissensus, c'est-à-dire une différence, qui tient en fait qu'on ne met pas au même niveau. Donc, la doctrine de l'Église et la doctrine de la justification par la foi. C'est-à-dire entre l'ecclésiologie et la soteriologie. Voilà. Et ça, je crois que ça demeure encore.
Et voilà aussi pourquoi on parle d'œcuménisme et non pas d'une seule Église. Sinon, tout serait, il n'y aurait plus rien à dire.
Oui, oui, oui.
Finalement.
Oui, absolument, oui.
Le deuxième... Oui, pardon, Michel.
Non.
C'est... Alors, le deuxième point que vous mentionnez très rapidement dans votre livre, c'est la relation au sacré. Vous dites, il est important de distinguer ce qui est saint de ce qui est sacré, et cela rejoint la question des ministères. Alors, comment est-ce que vous pourriez nous dire ça dans des termes compréhensibles?
Alors, je vais essayer. Écoutez, ce qui est certain, je le disais tout à l'heure, que les dialogues œcuméniques donc ont produit un ensemble de textes. Bon, on appelle ça des textes de consensus, les consensus. Donc un ensemble de consensus, donc de textes d'accord. Là, et c'est sur le terrain, on peut distinguer. Il y a différents thèmes. Ce sont des consensus. Mais il faut aujourd'hui passer donc de cet ensemble de consensus à un consensus d'ensemble. C'est-à-dire quelque chose qui soit donc articulé. Bon, ça, c'est la formule de mon collègue André Birmelet. Passer d'un ensemble de consensus à un consensus d'ensemble. Bon. Alors, ce qui fait problème aujourd'hui, quand on voit tous les dialogues, c'est qu'on bute toujours à nouveau sur la question des ministères. Alors, ce qui m'a frappé, en particulier, c'est en lisant des textes du Concile de Vatican II, où naturellement cette question est largement abordée dans un des grands textes du Concile, texte sur l'Église, Lumen Gentium, et dans lesquels, lorsqu'on parle donc des prêtres, du ministère spécifique des prêtres, qui se distingue quand même des ministères des laïcs. Et là, on voit qu'en ce qui concerne les ministères des prêtres, il est question toujours du sacra potestas, le pouvoir sacré du prêtre. Donc il y a un pouvoir en lui-même. Voilà. Bon, ça me frappe beaucoup.
Pour les protestants, bon, en effet, c'est une expression presque choquante.
Pour nous, oui. Et je vais essayer de dire pourquoi. Parce que finalement, le sacré, alors là, évidemment, je risque de faire sursauter beaucoup de gens, mais en régime d'évangile, le sacré n'existe pas. Et je vais essayer de dire pourquoi. Au fond, depuis que le monde est monde, l'homme a toujours inventé des religions. Et même sans qu'on aille loin, dans notre propre vie personnelle, au fond, il y a toujours un fond religieux d'une manière ou d'une autre. Même ceux qui se disent athées, finalement, ils sacralisent. Justement, ils sacralisent le divin ou bien sacralisent le démoniaque. Mais c'est la même chose, finalement. En sorte que c'est une manière de mettre la main, le sacré, sur le divin. C'est un pouvoir qui met ça. Or, il me semble que justement, le message biblique vient là, alors je vais dire exactement le contraire, c'est-à-dire que la Bible désacralise de la première à la dernière page.
Ancien Testament, Nouveau Testament.
Même dans le Nouveau Testament. Certes, il y a encore du sacré dans l'Ancien Testament, mais on voit que justement, c'est les prophètes mettent en question le sacré. Et ça me frappe. Alors, ne parlons pas de Jésus. Tout le ministère de Jésus, Alphonse Maillot, le pasteur Alphonse Maillot, avait écrit un article où il disait que Jésus avait saccagé le sabbat. Le sabbat qui représentait le lieu par excellence du sacré, dimanche. Et Jésus piétine le sabbat pour restituer au sabbat sa véritable vocation, on pourrait dire, sa fonction.
Et ça, c'est encore un aspect. Le sacré pour les catholiques reste sacré. Enfin,
mais
c'est
alors,
pas audible du tout.
Que je dise tout de suite que le sacré, finalement, il nous habite tous, quelque part. Je pense que si chacun regarde intérieurement ce qui se passe dans sa vie, il y a des petits jardins secrets qui sont sacralisés. Et ça, l'Évangile, là, vient jeter une nouvelle lumière là-dessus. Je vais expliquer comment je vois la chose. Donc, la tendance des humains, c'est au fond de sacraliser. On sacralise quoi ? On sacralise les lieux, on sacralise la politique. Le sacré, il y a des cultes, les cultes de Staline, par exemple, il y a eu un culte quand même. On sacralise le sport, on sacralise la technique.
La technique.
Mmh. La technique, c'est ambivalent, bien sûr. Il y a le bien et puis on peut faire le pire. Enfin, on peut, même l'écologie.
Une idéologie.
Ça peut être une idéologie, on sacralise la nature.
La nature.
Et alors, ça rappelle le culte des Baal dans l'Ancien Testament. Donc, il faut faire très attention, de façon de... Oui. Voilà, on a une santé. Alors, il y a un lieu, en particulier, qui apparaît le plus de la désacralisation, ça va se surprendre peut-être, et bien, c'est justement le repas du Seigneur. Parce que le repas du Seigneur, fait comme le baptême, nous renvoie à l'événement central de l'Évangile, à savoir la mort et la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus meurt sur la croix, le voile du temple se déchire de haut en bas. Ça signifie qu'il n'y a plus de séparation entre le sacré, qui est dans le temple, et ce qui est devant le temple, c'est-à-dire ce qui est profane. Par contre, et c'est l'événement qui suit l'événement pascal, c'est l'événement pentecostal, lorsque le Saint-Esprit descend sur les disciples... C'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, on ne sait d'où il vient, il nous échappe. On ne peut pas avoir prise sur l'Esprit Saint. Mais c'est lui, l'Esprit Saint, qui vient, qui descend, qui se répand sur les personnes, dans les cœurs, et qui change tout. Et donc il y a, autrement dit, ce n'est pas nous qui avons prise sur le divin, mais c'est Dieu qui, par l'Esprit Saint, a prise sur nous, si j'ose dire. C'est quand même tout à fait inversé.
Absolument.
Non ? Voilà. Alors, ça me paraît important. Alors, je le dis à propos de la Sainte Cène, parce que c'est au fond, c'est un lieu où justement le sacré revient en force. Et il me semble que là, ça pose des problèmes, justement, sur la façon dont nous gérons cette question. Vous voyez ? Dans le dialogue. Et moi, j'aimerais bien que cette question-là soit abordée, autrement dit, rapport du saint, du sacré, etc. Y compris la question des ministères.
D'accord. Qu'elle soit abordée dans de nouvelles discussions œcuméniques, dans de nouveaux dialogues, dans de nouvelles rencontres.
De nouvelles rencontres. Je verrais bien que, par exemple, un groupe comme le groupe des Dombes, qui a pas mal de liberté en ce qui concerne ce dialogue, finalement, puisse aborder cette question et la travailler. Ça serait, je voudrais le suggérer.
Voilà qui est fait, il faudra le suggérer dans les hautes instances.
Voilà.
Alors, le troisième sujet que vous pointez comme ça, qui mériterait encore une discussion œcuménique, c'est la reconnaissance mutuelle de l'ecclésialité des églises engagés sur le chemin de leur réconciliation.
Oui.
Alors là, il va falloir un petit commentaire de texte.
Oui, alors, la reconnaissance mutuelle des églises devrait aller, me semble-t-il, assez de soi, dans la mesure où des dialogues engagés depuis maintenant 50-60 ans montre que quand même on a quand même progressé sur ce terrain-là. Par exemple, pour l'Église catholique, les autres églises ne sont plus des églises en ce qui concerne les églises de la Réforme hérétiques ou schismatiques pour les orthodoxes, mais elles sont reconnues quand même comme des communautés plutôt ecclésiales plutôt que d'églises. Mais bon, donc quand même ça fait une différence déjà. Mais il y a un point, évidemment, un petit peu crucial qui surgit constamment dans les rencontres, et en particulier ceux qui sont engagés dans le mouvement œcuménique. Je le vois par exemple dans une association comme l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture.
Il consacré de nombreuses pages.
Oui, justement, sur ce plan, où cette question-là est toujours sous-jacente. Parce qu'on est engagé au nom du Christ dans un combat pour la reconnaissance de l'humain, tel que la CAT le défend. Et au nom du Christ, crucifié, ressuscité. Et comment se fait-il que, professant cela d'une manière forte ensemble, au moment où il s'agit d'être réunis, et en particulier pour qu'il s'agisse d'un service religieux, que ce soit la messe ou un culte, on accueille la même parole à travers l'écriture que nous entendons. Et au fond, au moment où il s'agit de participer à l'Eucharistie, la Sainte Cène, on ne puisse pas être ensemble. Et pourtant, l'Eucharistie ne dit pas autre chose que ce qu'a proclamé la parole. Parce que l'Eucharistie, la Sainte Cène, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, ou plutôt il y a un signe, qui ne dit pas autre chose que ce qu'a annoncé la parole, à savoir que le Christ est présent, réellement présent. Comment est-il présent ? Ça, c'est justement l'affaire du Saint-Esprit. Mais il se rend présent. Et le pain et le vin disent, oui, c'est vrai. Amen. Amen, ça veut dire, c'est vrai. C'est vrai, je suis présent au milieu de vous. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, même si on n'est pas en pleine communion entre les églises, on pourrait être rassemblés autour de la table, certes avec nos différences, mais en précisant bien que celui qui préside, c'est ni le prêtre ni le pasteur, c'est le Christ lui-même qui convie à sa table des gens très différents. Il y avait le soir de la Sainte Cène, le soir où Jésus a inauguré, l'Eucharistie, la Sainte Cène. Il y avait qui autour de cette table ? Il y avait Judas, le traître. Il y avait ceux qui ont renié le Christ, Pierre, et puis tous les autres qui ont pris la peau de l'escampette aussitôt le repas terminé, au Jardin des Oliviers. Et ils étaient là, ils étaient accueillis. Alors, ça pose quand même problème que des frères qui se reconnaissent, en partie en tout cas, comme disciples du Christ, ne puissent pas se retrouver autour de la même table. Alors, c'est vrai, on n'est pas encore dans le royaume de Dieu où il y aura la pleine communion entre les églises. Mais aujourd'hui, nous devons dresser des signes de cette communion à venir, de ce qui est déjà là et du pas encore.
Alors, au-delà de ces trois thématiques fortes de votre livre, Michel Fréchet, il y a aussi la question de la mariologie, la place de Marie dans la théologie catholique et protestante. Alors, j'en parle un peu parce que c'est au niveau des communautés de base, on va dire, c'est toujours la question. Ah, mais vous, les protestants, Marie, vous ne vous en occupez pas. Donc...
Alors, ça m'a toujours extrêmement surpris parce que c'est moi, depuis que je suis enfant, Marie, c'est quand même une figure de proue, si je veux dire. Oui. Comme témoin de la foi. Là, moi, je la place au premier rang des témoins de la foi. Et vraiment... Comment se fait-il que les protestants ont donné à leur fille le nom de Marie le plus souvent ? C'est le nom qui était, le prénom qui était le plus donné.
Et voilà. Donc,
donc par contre, Marie a une patate. Mais quelle est la place qu'on lui donne ? Alors, Marie n'est pas, j'allais dire, on ne s'adresse pas à Marie comme on s'adresse à Dieu, le Christ. Marie est notre sœur, est à nos côtés, pas devant nous, mais à côté. Et donc, il n'y a pas lieu, elle, de la prier, pensons-nous, c'est le Christ que nous prions. Mais Marie se trouve dans la grande communauté, la nuée des témoins, comme dit l'Épître aux Hébreux. Et moi, je dis, ben oui, peut-être à la première place. C'est quand même la mère du Seigneur, la mère du Sauveur. Et à ce titre-là, elle tient une place importante.
Et voilà. Autant pour les protestants que pour les catholiques.
Oui.
Alors, je sais que vous voulez, peut-être on va le faire maintenant, citer une phrase de Daniel Margera en ce qui concerne la question de l'ecclésiologie, des églises.
Oui, alors c'était, j'avais pris cette citation, donc, en pensant au Concile de Vatican II, les avancées qui avaient lieu, et comment aujourd'hui on pourrait situer, grosso modo, on pourrait dire d'une manière assez simple, comment comprendre le rapport entre catholiques et protestants. Et alors, mon collègue, enfin c'est le professeur Daniel Marguera, qui est un exégète et biblique suisse reconnu, qui a été professeur à l'université de Lausanne. Et il écrit ceci: « Le destin des protestants et celui des catholiques sont intimement liés. Protestantisme et catholicisme ont besoin l'un de l'autre pour exister. » Et de poursuivre: « La force et la faiblesse du protestantisme et du catholicisme sont à l'inverse l'un de l'autre. Le protestantisme a le respect de la pluralité, mais est incapable de mettre en œuvre son unité. Le catholicisme a un sentiment d'appartenance qui l'unifie, mais il lui est difficile d'accueillir sa diversité interne qu'il a tendance à rejeter. »
Oui, finalement, il explique là comment la difficulté que catholiques et protestants ont du mal à s'harmoniser.
Oui, c'est sûr.
C'est intrinsèque.
Oui, mais alors du coup, reconnaissant cela, il faut poursuivre le dialogue. D'ailleurs, le dialogue ne sera jamais terminé jusqu'à la fin des temps. Mais oui, on a besoin de l'un. Moi, je dis toujours, moi, j'ai besoin de mes frères catholiques pour vivre ma foi protestante. Et j'ai la faiblesse de croire que l'inverse est vrai.
Merci, Michel Fréchet. Un grand merci pour nous avoir expliqué, explicité le parcours que vous avez choisi de faire dans ce livre, « Quand les églises se parlent », préfacé par François Claveroli et postfacé par Monseigneur Vincent Jordi. Nous étions, Michel Fréchet, dans l'émission « D'Évangile et liberté ». Merci encore, Michel Fréchet, de votre venue ici. Au revoir.
Au revoir. À bientôt.